Bonjour à toutes et à tous. Parole de lawyer. Bonjour, c'est Pierre Samant-Schreiber et je suis ravi de vous accueillir dans ce nouvel épisode de mon podcast Parole de lawyer, épisode qui va être consacré à la médiation. La médiation, c'est un peu mon dada, ça fait 7 ans que je suis médiateur à plein temps. Et donc j'ai décidé de vous gratifier de 2 épisodes. Celui-ci qui va expliquer ce qu'est la médiation et ce que ce n'est pas, et vous expliquer les avantages de la médiation. Puis le deuxième, plus tard, vous expliquera comment fonctionne une médiation. Mais avant toute chose, comme d'habitude, n'oubliez pas de vous abonner, de liker, de noter mon podcast et de le partager avec toutes les personnes dont vous pensez qu'elles pourraient être intéressées. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une médiation ? Eh bien, en réalité, une médiation, c'est une conversation informelle qui va permettre de résoudre un différend. Alors, je vais vous donner une des définitions plus techniques, qui est que c'est un mécanisme de résolution des conflits par lequel les parties choisissent un tiers neutre, indépendant et impartial pour les aider à trouver une solution amiable à leurs différends. Concrètement, ça veut dire que des parties qui s'opposent dans un litige, dans un conflit, quel qu'il soit, parce que ça peut être de toute nature entre tout type de parties, décident que plutôt que d'aller au procès, il vaut mieux de se mettre autour d'une table pour trouver un accord, et comme par hypothèse, elles n'y sont pas arrivées entre elles jusque-là, elles vont demander à un tiers, le médiateur, de les y aider. Je reviendrai dans un autre épisode sur le médiateur, qui il est, comment on le choisit, quelles sont les principales qualités qu'il doit avoir. Mais il suffit de savoir à ce stade que le rôle du médiateur, ça va être de fournir aux parties un cadre dans lequel elles vont pouvoir se parler en toute liberté, sans crainte. Pourquoi ? Parce que la médiation est entièrement confidentielle. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que tout ce qui s'y dit, tout ce qui s'y échange, ne peut pas sortir de la salle de médiation. Et donc, ça permet aux parties, même si elles mettent parfois un peu de temps à le réaliser, d'explorer toutes sortes de possibilités auxquelles soit elles n'avaient pas pensé, soit qu'il ne serait pas possible d'évoquer devant un tribunal. Je vais vous donner un premier exemple. Lors d'une médiation familiale patrimoniale, qui est une de mes spécialités, alors la médiation familiale patrimoniale, c'est quoi ? C'est dans les groupes familiaux qui ont des entreprises ou des avoirs importants, lorsque le système de communication entre les membres de la famille devient grippé, devient dysfonctionnel, et qu'à ce moment-là, non seulement les gens se disputent dans la famille, mais aussi ça affecte l'entreprise ou les entreprises qu'ils possèdent ou qu'ils dirigent. Elle s'oppose à la médiation familiale matrimoniale qui, elle, concerne les couples qui divorcent. Donc, au cours d'une de ces médiations familiales patrimoniales, vous avez des enfants qui se disputent à l'occasion d'une succession. Et l'un d'entre eux dit « qu'est-ce qu'on fait de l'argent que papa avait mis en Suisse ?» Voilà, alors il y a une discussion qui s'instaure. Est-ce qu'il faut le déclarer, passer par ce qu'on appelle une cellule de dégrisement auprès du service des impôts qui, moyennant le fait que vous allez payer les impôts que vous auriez dû payer sur cet argent, ne vous imposera pas de pénalité, etc. Ou est-ce qu'il faut garder l'argent en Suisse et surtout ne rien dire à personne, ou quoi d'autre ? Ce genre de discussion, par hypothèse, vous ne pouvez pas l'avoir devant un tribunal. Et donc, le cadre, la confidentialité, permettent aux parties d'évoquer tout ce qu'elles veulent, sans avoir crainte que ça puisse être utilisé contre elle. Car ni le médiateur, ni aucune des parties ne peut, dans l'hypothèse où la médiation n'aboutit pas, faire ensuite état de ce qui s'y est dit. On ne peut pas aller devant un tribunal en disant « Monsieur le Président, je vous demande de condamner l'autre partie à me verser la somme de tant, car en médiation, cette autre partie m'avait proposé cette somme pour mettre un terme à notre différend. » Ce n'est pas possible. À partir du moment où le médiateur a créé ce cadre, la discussion va pouvoir commencer. Alors, me direz-vous, qu'est-ce qui fait que le médiateur va pouvoir arriver à mettre les parties d'accord alors qu'elles-mêmes n'y sont pas parvenues? Et c'est une objection qu'on entend souvent. Comment est-ce que telle personne qu'on va faire venir comme médiateur, qui ne connaît pas les parties, qui ne connaît pas le problème, parfois qui ne connaît pas du tout le milieu, le monde industriel ou financier dans lequel elle évolue, qui ne connaît pas les aspects techniques de la problématique qui les oppose, comment est-ce que cette personne va réussir à les mettre d'accord? Eh bien, non seulement en fournissant le cadre dont j'ai parlé, mais aussi parce que cette personne, le médiateur, est neutre, indépendant, impartial. C'est-à-dire qu'il est là sans avoir aucun intérêt personnel en dehors des honoraires qui lui seront versés. Et le simple fait d'avoir cette personne tierce, qui n'a rien à voir ni avec le différent qui oppose les parties, ni avec chacune des parties, va forcer les parties à se dire les choses autrement lorsqu'elles vont se parler devant lui. Parce que, avec son outil principal qui est le point d'interrogation, le questionnement, le médiateur va contraindre les parties à se parler autrement. Ainsi, le double effet du cadre et de l'intervention d'un tiers neutre, impartial, indépendant et bienveillant va modifier l'interaction entre les parties et va leur permettre d'explorer d'autres alternatives, d'autres issues à leurs différends que celles qu'elles avaient en tête. Alors, je vais vous expliquer pourquoi la médiation s'oppose au procès ou à l'arbitrage, en quoi elle a des avantages sur eux, mais parlons d'abord de ses atouts qui sont intrinsèques à la médiation. D'abord, il y a la rapidité. La durée de la plupart des médiations se mesure en jours, en semaines, parfois en mois, mais rarement plus que 3, 4, 5 mois pour les plus importantes. La plus courte des médiations que j'ai faites a duré 2 demi-journées. La plus longue, qui était une médiation familiale patrimoniale, a duré 1 an et demi, mais on n'a pas travaillé tous les jours pendant 1 an et demi. D'abord, souvent dans la médiation familiale patrimoniale, le temps des vacances est un temps neutre. Mais c'était en plus une exception. En général, selon la complexité, c'est de quelques semaines à quelques mois. Deuxièmement, c'est hyper efficace une médiation. Alors, il n'y a pas de statistiques globales qui soient centralisées quelque part. Lorsque l'on consulte les sites des centres de médiation, on voit que le taux de succès est de 75% en général, voire plus. Donc, ça veut dire que dans les 3/4 des cas, des parties qui sont prêtes à aller au procès vont trouver en médiation un accord. Et par hypothèse, si elles sont d'accord, c'est qu'elles y trouvent leur compte. Et donc, c'est remarquablement efficace. Troisième avantage, la confidentialité, j'en ai parlé, qui est à la fois indispensable à la médiation et en même temps un avantage, car pourquoi, si vous allez devant un juge, dans le cadre d'un procès, eh bien, tout ce que vous direz sera public. Et parfois, c'est extrêmement embêtant. Quatrième avantage, le maintien du lien. Bien entendu, quand on va en médiation, c'est qu'on se dispute, c'est qu'on a un différend. Donc, ça veut dire que le lien, il est très tendu, il est détérioré, il est parfois même détruit. Mais en cherchant une solution au litige, eh bien, on travaille ensemble. Et donc, c'est un autre lien. C'est un lien qui va soit permettre de maintenir celui qui existait avant, ce qui est très important dans les médiations familiales patrimoniales, car on ne peut pas divorcer de sa famille, on ne peut pas se séparer de sa famille. On peut ne plus lui parler, mais on ne peut pas ne plus en faire partie. Donc le lien va continuer d'exister. Donc c'est très important de travailler au maintien du lien. Parfois, ça renouvelle un lien. J'ai travaillé sur une médiation entre entreprises dans laquelle il s'agissait d'un contrat de prestation de services informatiques. Le client considérait que le boulot avait été mal fait et le prestataire considérait que le client n'avait rien fait pour faciliter la tâche et même avait sans arrêt mis de nouvelles conditions qui rendaient l'exécution du contrat difficile, voire impossible. Donc, le client demandait des sommes très importantes au prestataire pour une exécution du contrat et le prestataire demandait des sommes très importantes au client pour non-paiement des factures qu'il avait envoyées. Alors, ça s'est terminé comment ? Eh bien, simplement parce qu'on a imaginé, quand je dis « on », c'est ensemble, les parties et moi, que le prestataire pouvait fournir d'autres prestations au client pour un autre montant et que, parallèlement, le client allait fournir des prestations au prestataire, ou plutôt allait lui fournir du matériel. Et donc, c'était très intéressant parce que ni les uns ni les autres y avaient pensé au départ. Et au bout du compte, ça s'est traduit par de nouveaux liens contractuels qui n'étaient pas ceux du départ, mais qui étaient d'autres et qui leur ont permis de continuer à fonctionner sans avoir à dépenser d'argent ni les uns ni les autres. Autre avantage, l'économie. Du fait qu'une médiation ne dure pas très longtemps, du fait qu'on se passe de tous les moyens procéduraux qu'on utilise habituellement devant les tribunaux, du fait qu'il s'agisse d'une discussion, donc on n'a pas besoin de préparer de longs documents, des assignations, des conclusions, des mémoires, eh bien le coût de la médiation est marginal par rapport aux enjeux. Autre avantage, je finis par perdre le fil, ça doit être le 7e ou le 8e, la créativité. À partir du moment où les parties sont délivrées de leur positionnement, de leur argumentation juridique qu'elles développeraient ou qu'elles développent devant un tribunal, elles sont libres d'explorer des champs qui n'ont rien à voir, je vous le disais tout à l'heure, et ça les libère. Ça les libère pour trouver des solutions et puis ça les libère mentalement. Et j'y reviendrai tout à l'heure. 7e ou 8e avantage, la certitude, ce n'est pas le moindre. Quand vous entrez en médiation, moi je demande toujours aux parties combien de temps est-ce qu'elles veulent se donner. Alors si les parties me disent on veut se donner, mettons 2 mois, et bien on va prendre 2 mois. Eh bien, elles ont une certitude, ces parties, c'est qu'au bout des 2 mois, qui ne représentent pas grand-chose par rapport à la durée d'un contentieux devant les tribunaux, là aussi je vais y revenir, au bout des 2 mois, de 2 choses l'une, soit elles auront trouvé un accord, et alors win-win, c'est-à-dire qu'elles seront débarrassées de ce problème, elles n'auront plus de procès à envisager ou à gérer, elles pourront continuer à vivre leur vie normalement. Tout ça en 2 mois. Soit la médiation n'a pas abouti, et alors elles se retrouveront dans 2 mois exactement dans la même situation qui est la leur au moment où elles rentrent en médiation, c'est-à-dire qu'elles n'auront rien perdu. Et en tout cas, personne ne pourra leur imposer, dans le cadre d'une médiation, une solution dont elles ne veulent pas. Il n'y a donc jamais de perdant en médiation. Par hypothèse, ça ne peut être que bénéfique ou neutre, jamais négatif. Bon, et dernier avantage, mais qui est plutôt un avantage, je dirais pour la société, quasiment un avantage politique, eh bien c'est que ça désengorge énormément les tribunaux. Vous savez aussi bien que moi que la justice dans notre pays, comme dans bien d'autres pays, est mal en point et n'arrive pas à rendre des décisions dans un délai raisonnable. Je vais y revenir là aussi. Alors pourquoi aller en médiation plutôt qu'aller devant un tribunal ? Eh bien c'est un peu les raisons inverse des avantages de la médiation que je viens de vous citer. Aller devant un tribunal, le contentieux judiciaire, c'est très long, beaucoup trop long. La durée moyenne pour avoir une première décision, au fond, c'est 1 an et demi, à peu près. Ça dépend évidemment des juridictions, des villes, blablabla. Enfin, en gros, si vous avez quelque chose en moins d'un an et demi, vous avez de la chance. Et s'il y a un appel, vous en prenez pour encore un an et demi, voire deux ans de plus. C'est-à-dire qu'il y a des procès qui ne se résolvent pas de façon définitive avant trois ans ou plus. C'est impossible d'avoir un temps aussi long pour beaucoup d'entreprises, mais aussi des particuliers. Enfin, lorsqu'on va au tribunal, c'est qu'on veut que le juge, qui est nommé par l'État, dise le droit, dise qui a raison, qui a tort. Et pourquoi est-ce qu'on le veut ? Parce qu'on a un problème, et ce problème, on l'a maintenant. Se dire qu'on va avoir la solution dans trois ans, c'est juste impossible. Non seulement c'est trop long, mais c'est aussi très cher. Les honoraires des avocats, des experts, bien entendu, mais aussi le temps de travail, le temps de management dans une entreprise, mais même si ce n'est pas une entreprise, ici ce sont des particuliers, c'est le temps qu'on y consacre, non seulement en termes purement de temps passé, mais le temps mental qu'on y consacre. C'est-à-dire que lorsqu'on est dans un contentieux important, eh bien, ça vous mange la tête. Et ça, ce n'est pas bon non plus. Et c'est toujours vrai dans un litige, me direz-vous. Oui, mais quand il dure trois ans, ça vous mange la tête pendant trois ans. Si vous faites une médiation qui dure trois mois, ça vous mange la tête pendant trois mois. Et même, ajouterais-je, ça ne vous mange pas la tête, puisque contrairement au contentieux, vous êtes actif. Dans une médiation, dans un contentieux, vous déposez par l'intermédiaire de votre avocat vos conclusions et puis c'est tout. Vous n'intervenez pas autrement. Dans une médiation, vous êtes là tout le temps. Vous allez écouter ce que dit l'autre partie, vous allez proposer des choses, vous allez argumenter, vous allez rejeter des positions qui vous sont faites. Vous êtes actif. À partir du moment où vous êtes actif, ça ne vous prend pas du tout la tête de la même façon. Bien entendu, le contentieux détruit du lien. Pourquoi ? Parce que quand vous faites vos conclusions, quand vous les rédigez, eh bien, toujours, toujours, vous allez forcer le trait. C'est-à-dire que vous allez essayer de convaincre les juges que vous avez raison et que l'autre a tort en peignant le tableau le plus noir possible du comportement de la partie adverse et le tableau le plus rose possible du vôtre. Mais lorsque vous recevez les conclusions de votre adversaire, c'est horrible, parce que vous voyez tout le mal qu'il dit de vous, tous les arguments qu'il utilise contre vous, toutes les preuves, les témoignages, et que sais-je encore. Et je vous assure, pour celles et ceux d'entre vous qui n'ont jamais vécu, ça fait très mal de lire tout ce que l'autre dit de vous. Donc ça casse le lien, s'il en restait encore, de façon, la plupart du temps, irrémédiable. Enfin, et j'en ai parlé tout à l'heure, ce n'est pas public, ce n'est pas confidentiel, et donc il y a des choses dont on ne peut pas parler devant un tribunal. Et je suis certain, d'ailleurs, que très nombreux sont les magistrats, et peut-être il y en a-t-il qui nous écoutent, qui, en voyant un procès devant eux, se sont dit « soit on ne me dit pas tout, et j'ai beaucoup de mal à trancher dans un litige où on ne me dit pas tout », soit qui se sont dit « mais enfin, c'est évident, mettons ces parties dans une pièce avec quelqu'un de pas trop débile, et puis ils vont trouver un accord très vite. Mais moi, je ne peux pas, en tant que juge, dire « allez, vous, vous lâchez ça, et vous lâchez ça, et puis ça va bien aller ». Non, ce n'est pas mon rôle. Mon rôle à moi, c'est de trancher, et donc je vais devoir trancher. Voilà toutes les raisons pour lesquelles le contentieux ne répond pas, dans la plupart des cas, aux attentes des parties. Alors vous allez me dire, dans quel cas est-ce qu'il faut aller au contentieux ? Pour moi, c'est dans les cas où soit il y a un principe que l'on veut faire juger, soit les cas dans lesquels il n'y a qu'une somme d'argent, tout le reste est détruit, le lien est détruit, il y a vraiment un demandeur et un défendeur et un gap très important entre l'offre et la demande d'argent. Et qu'il faut faire trancher ça par un juge parce qu'on n'a pas réussi en médiation à se mettre d'accord. À part ça, je pense que la médiation est indiquée dans absolument tous les cas. Alors, me direz-vous, pourquoi pas l'arbitrage ? Alors, comme vous le savez, l'arbitrage, c'est un autre système de résolution de litiges qui est une sorte de justice privée, c'est-à-dire que les parties décident d'un commun accord d'aller en arbitrage, décident d'un commun accord de nommer un arbitre ou un panel de 3 arbitres, et elles vont décider aussi de la procédure, est-ce qu'on a le droit de faire venir des témoins, quel type de documents est-ce qu'on peut produire, etc. Bref, elles vont être largement maîtres de la façon dont l'arbitrage va se passer, et elles vont exposer leurs arguments devant ceux ou ces arbitres qui vont ensuite décider qui a raison et qui a tort, et cette décision s'imposera aux parties. Alors, c'est plus intéressant que le contentieux dans certains cas, notamment parce que ce n'est pas public, c'est confidentiel. Et donc là aussi, on peut se dire des choses ou échanger des informations qu'on ne pourrait pas faire devant un tribunal. Certes, mais il reste quand même beaucoup d'inconvénients. D'abord, il faut aller devant les arbitres, c'est-à-dire avoir noué le litige. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'il faut que la partie demanderesse ait formulé ses demandes et il faut que la partie défendresse formule sa réponse, comme devant un tribunal. Et puis on confie la décision à un tiers. Cette fois, ce n'est pas le juge, c'est un arbitre. Alors oui, on a pu le choisir ou les choisir en fonction de leurs compétences, de leurs connaissances de l'industrie ou des sociétés concernées, etc. Mais à part ça, le fond de l'engagement des arbitres est le même que celui d'un juge. Nous allons trancher, nous allons dire qui a raison et qui a tort. Et puis c'est tout aussi long, ou à peu près. Certes, il n'y a pas d'appel, mais des arbitrages qui durent 1, 2, voire 3 ans, ça existe, et même ça existe souvent. C'est cher, voire très cher, parce que en plus du coût d'un contentieux normal, eh ben, il faut payer les arbitres qui sont parfois chers. Et puis qu'on est toujours dans une logique gagnant-perdant. L'objectif, c'est toujours de dire qui a raison, qui a tort. Pas dans une médiation. Dans une médiation, on est là pour confronter les besoins, les intérêts des parties, pour aller chercher plus loin que la position qu'elles mettent en avant. Je vais vous donner un exemple très, très simple. Il s'agissait d'une médiation entre une école, représentée par la directrice de l'école, et une employée. L'employée était chargé d'accueillir les élèves dans la cour et de faire des tâches comme ça d'accompagnement. Et elle se voyait notifier un licenciement parce qu'elle arrivait souvent en retard le matin et qu'elle était très souvent sur son téléphone, à titre personnel bien entendu, puisque son métier n'impliquait pas de communiquer avec qui que ce soit à l'extérieur. Et 1, 2, 3, 4 réflexions de la directrice, au bout d'un moment, elle en a marre et elle décide de licencier son employé. Et ça va en médiation. Et en réalité, en médiation, qu'est-ce qui est apparu dans un aparté, c'est que en fait, cette femme avait un mari extrêmement dominateur, extrêmement jaloux, extrêmement colérique, et qui la harcelait en fait, de telle sorte qu'elle arrivait en retard parce qu'il fallait toujours qu'elle fasse autre chose avant de partir de la maison, et qu'une fois qu'elle était à l'école, il l'appelait sans arrêt pour vérifier qu'elle était bien là, pour lui demander ce qu'elle faisait, etc. Cette pauvre femme vivait un enfer. Et lorsque c'est apparu dans la médiation, la directrice a été bouleversée par ces révélations. Et nous avons travaillé ensemble à trouver un arrangement des horaires et du poste de travail de la personne en question qui permettent d'éviter, en tout cas de remplir les besoins de l'école, c'est-à-dire qu'elle soit là à l'heure et qu'elle fasse le travail qu'on attendait d'elle, tout en préservant la possibilité pour elle de gérer sa vie privée. Et nous lui avons recommandé pendant cette médiation d'aller consulter parce qu'elle elle était très malheureuse et que son couple lui mangeait la tête en réalité. Voilà des choses qui ne se disent jamais devant un tribunal. Et donc, vous voyez bien qu'on est très au-delà de la demande et de la défense. Demande de licenciement et défense avec demande de dommages et intérêts reconventionnels pour non-respect de la procédure ou que sais-je encore. Là, on a travaillé à des solutions. C'est vrai, là, je vous parle d'un petit litige, mais c'est vrai aussi dans les grands litiges. En réalité, il n'y a que l'humain qui permet d'arriver à une solution qui convienne à tous. En réalité, une approche purement juridique ne fonctionne pas. Pourquoi ? Parce que ça revient à remettre le système qui existe entre les parties et qui est bloqué sur un axe qui est un axe gagnant-perdant. Et ce n'est pas ce que cherchent les parties fondamentalement. Les parties cherchent très souvent à ce qu'on reconnaisse leur situation et à ce qu'on trouve une solution qui leur permette de continuer à avancer sans le poids de ce contentieux. Donc, ça m'arrive souvent dans des médiations qu'une partie me dise « Oui, mais enfin, vous qui êtes avocat, vous voyez bien que l'autre partie a tort. » Et en général, je leur réponds « Non, mais attendez, si ce que vous souhaitez, c'est que quelqu'un vous dise si juridiquement vous avez raison ou non, alors allez devant un juge, mais ne venez pas en médiation, car moi, je n'ai pas d'opinion juridique. » Non seulement parce que ce n'est pas mon boulot en tant que médiateur, mais en plus parce que je me méfie des opinions juridiques. Il faudrait des recherches très approfondies et même je ne serais jamais sûr d'avoir complètement tort ou complètement raison. De la même façon, si votre avocat vous dit qu'il est sûr à 100% de gagner devant un tribunal, eh bien allez devant un tribunal. Mais en réalité, le procès gagné d'avance, ça n'existe pas. Donc on va sortir du cadre purement juridique. Même si, évidemment, le contrat, c'est important, le pacte d'actionnaires, les statuts de la société, que sais-je encore, bien entendu, ça donne une sorte de cadre dans lequel se pose le litige. Mais si ça donne le cadre du litige, ça n'en donne sûrement pas la solution. Pourquoi ? Parce que si c'était aussi simple que ça, les parties ne seraient pas en litige. Si c'est un contrat de prêt extrêmement simple dans lequel je dis « je vous prête 1000 euros et vous me rendez le 30 du mois prochain », bah, le 30 du mois prochain, de deux choses l'une, soit vous me l'avez rendu et il n'y a pas de sujet, soit vous ne me l'avez pas rendu et vous me le devez, il n'y a pas de sujet non plus. C'est jamais aussi simple que ça. Et puis, surtout, le droit et la justice ne s'encombrent pas, parce qu'ils ne sont pas faits pour ça, des émotions, de la subjectivité, des motivations profondes des personnes, y compris celles qui dirigent les sociétés, car penser qu'un litige entre sociétés est en dehors du champ de la psychologie, c'est se tromper lourdement, car il y en a toujours. Les sociétés, ce sont des personnes morales, mais elles n'existent que par une sorte de fiction, alors qu'elles sont dirigées par des hommes et des femmes, donc des êtres humains qui sont nécessairement objets et sujets d'émotions et de subjectivité, qui sont précisément les éléments sur lesquels on peut travailler en médiation. Mais de la même façon qu'une approche purement juridique n'est pas satisfaisante parce qu'elle ne recouvre pas l'intégralité du problème, une approche purement psychologique est elle aussi tout à fait insuffisante pour régler le problème. Pourquoi ? Eh bien, tout simplement parce que ça circonscrit le différend à ses aspects humains, alors que l'objectif des parties est d'en sortir et pas de se faire soigner. Il n'y a jamais que des raisons juridiques ou économiques à un conflit. De la même façon, il n'y a jamais que des raisons psychologiques à un conflit. La médiation n'est pas faite pour soigner, elle n'est pas faite pour dire le droit, elle est faite pour aider les parties à travailler ensemble pour trouver par elles-mêmes la solution qui leur convient. Et si ça marche à plus de 75% des cas, c'est bien qu'il y a une raison, et ces raisons, je viens de vous les exposer. Voilà, j'espère que cet épisode vous aura plu. En tout cas, pour moi, c'est toujours un plaisir de vous retrouver. Alors, soyez gentils, abonnez-vous, partagez, likez, notez ce podcast. C'est la seule chose que j'attends de vous, mais ça me fait très plaisir. Et j'espère vous revoir très bientôt pour un nouvel épisode de mon podcast Parole de Lawyer.